Bonsoir, bonsoir. Donc, normalement, vous avez reçu un peu les 6 points que j'avais annoncés, pour ceux dont l'adresse est officiellement enregistrée au secrétariat. C'est bon ? Vous avez donné un mail ou pas ? C'est pas dramatique, j'ai juste redonné les 6 parties que j'avais annoncées au début. Donc, Paul, sa formation, sa culture, son éducation, son changement de nom. Bon, qu'est-ce que j'ai dit finalement lors du premier cours ? Que Paul était un représentant éminent de la haute société juive hellénistique, qu'il aurait pu avoir un destin de chef d'état-major de l'armée romaine en 66, ou d'intendant général des finances pour l'Égypte, comme son cousin quasiment Tibère Julius Alexandre. Donc il appartient aux 1% les plus cultivés, les plus dotés culturellement, familialement de l'Empire, que c'est un juif hellénistique, mais un juif 100%, très zélé dans sa religion. Je ne sais pas si j'avais parlé la fois dernière de la sœur de Paul. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez de la sœur de Paul ? Bon. Alors, vous savez tout de même que Paul a un neveu, le fils de sa sœur. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit du fils de sa sœur dans les Actes ? Alors, il a sauvé son oncle. Le point intéressant, si vous voulez, c'est le fameux, toujours, le critère de cohérence entre les lettres et les actes. Je vous dis, l'une des questions centrales quand on touche à Paul, c'est la cohérence ou la contradiction, où il y a silence d'un côté, entre ce que dit Paul lui-même dans les lettres et ce que dit le camarade Luc, son arrière-petit-fils, 50 ans plus tard, dans les Actes des Apôtres. Alors, une fois de plus, je vous ai dit plein de choses que nous dit Luc, nous ne le savons que par Luc. Que Paul était de Tarse, qu'il s'appelait Saül aussi, ou avant, on a vu ça, qu'il a été éduqué au pied de Gamaliel, donc Gamaliel, le grand docteur de l'école de Hillel, mentionné au début des Actes et caractérisé positivement. Bon. Qu'il était citoyen romain de naissance, jamais Paul ne nous en parle. Et là, on avait vu qu'il y avait éventuellement contradiction avec l'affaire des coups de verge, mais qu'on pouvait faire sauter cette contradiction. Alors, Paul est arrêté à Jérusalem, plutôt, on apprend sa présence à Jérusalem, des partisans zélés du groupe des pharisiens font le serment de le tuer, ils font le serment de ne rien manger ni boire. Alors, boire, ça veut dire 3 jours, parce que vous pouvez tenir un mois sans manger, ça va. Mais sans boire, au bout de 3 jours, pour tuer quelqu'un, vous commencez à pas être très frais. Ça veut dire que c'est un projet à courte. Ça veut dire qu'ils ont la conviction qu'ils vont arriver à le trouver très vite pour le tuer. Le fils de la sœur de Paul, alors Luc nous dit, il était au courant. Il était au courant pourquoi ? Mais parce qu'il fait partie de ce groupe. C'est-à-dire que le milieu de la famille de Paul est un milieu pharisien, zélé, extrêmement, nous dirions aujourd'hui, fanatique. Ça veut dire que quand Paul nous dit qu'il est allé en Arabie, ou même quand Luc nous dit, en acte 13, à la fin du 12, que Barnabé alla chercher Paul à Tarse, donc chez lui, que Paul a sans doute essayé de convertir sa famille, bah, il n'a pas réussi avec tout le monde. Hein, puisque 20 ans plus tard, ou disons 15 ans plus tard, son neveu est dans une yeshiva ultra-orthodoxe à Jérusalem, comme on dirait aujourd'hui, pas du tout chrétien. D'accord ? Mais que, alors ça c'est la section romantique de notre passage, que confronté au choix entre sa religion et sa famille, c'est-à-dire soit que son oncle soit assassiné et qu'il doive retrouver sa mère en disant « À propos maman, il faut que je te dise un truc ». J'ai contribué ou j'ai permis que ton frère, bon, qui est un peu fou, on sait bien, dans la famille, mais enfin, soit assassiné, il a quand même fait prévaloir les liens de famille sur ses liens idéologiques et religieux. Bon. Tout ça, c'est des infos que nous donne Luc. Bon, enfin, on ne voit pas pourquoi Luc inventerait une histoire pareille. Dans le scénario, ce n'est pas totalement décisif, d'autant plus que le complot échoue, bon, que Paul est... Bon, bref. Voilà. Sur sa personne, cette première partie des questions, toutes les questions sont bonnes, seules les réponses sont mauvaises. Les choses que j'ai dites qui vous... qui appelle explicitation. Bon, tout le monde connaît Phébé, hein, la diaconesse de l'église de Sancré, de Cancrai, c'est-à-dire le deuxième port de Corinthe, qui est la porteuse de la lettre aux Romains et qui a une église qui se réunit dans sa maison. Ça, nous le savons par la lettre aux Romains. Oui, donc pour aller vite, ce type de chrétiens de la première génération de haut niveau social sont ceux qui sont soit en mesure d'être citoyens romains, soit en mesure de certifier que Paul l'est. Donc, ils font partie de ceux dont j'ai parlé, qui auraient pu se présenter au port de Corinthe en disant aux gardes romains, si jamais il y a une arrestation, en tout cas, faites attention, cet homme est citoyen romain, nous nous en portons garant. Sachant qu'une fausse affirmation sur ce point-là vous amène très loin. Donc, vous n'avez pas intérêt à bluffer sur ce genre de choses. Voilà. Je vais reparler de ça un peu plus loin en parlant des communautés chrétiennes de Paul. Hein. Alors, je veux commenter un peu avec vous Romains 15, 15-20, sur comment Paul comprend sa mission d'apôtre. Alors, la lettre aux Romains, je reviendrai sur le mystère de la lettre aux Romains à la fin. Donc, la lettre aux Romains, disons, un peu formellement se conclut, que le Dieu de l'espérance, etc. Et puis, il y a, dans nos Bibles bégistes, c'est appelé un épilogue. Bon. Paul reprend la parole de manière un peu moins théologique et un peu personnelle. Enfin, il dit beaucoup de choses de lui et de comment il comprend sa mission. Je suis personnellement bien convaincu, mes frères, à votre sujet, que vous êtes remplis de bons sentiments, en pleine possession du don de science, capable de vous avertir mutuellement. Bon, non, mais attention, je vous ai écrit longuement sur la théologie, mais je sais que tout va très bien chez vous. Vous voyez, Paul, il marche sur des œufs parce qu'il écrit à des gens qui n'ont pas de lien direct, a priori, avec lui. Je vous ai cependant écrit assez hardiment par endroits, comme pour raviver vos souvenirs, bon, une formule un peu forte, en vertu de la grâce que Dieu m'a faite d'être un liturge du Christ Jésus, hein, un officiant, auprès des nations, comprenez les païens. Sachant que le monde se divise en deux catégories, hein, les ethnés, les nations, et les juifs. Donc c'est tous ceux qui ne sont pas juifs. Ministre, serviteur de l'évangile de Dieu, afin que les nations deviennent une offrande agréable, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Donc, ceci nous livre la conviction centrale que Paul nous a déjà livrée 5 ans avant, on va dire, dans la lettre aux Galates au début, qu'il conçoit l'appel du Christ qu'il a reçu comme un appel à être prioritairement missionnaire de l'Évangile auprès des païens. Il emploie ici une métaphore sacerdotale. Il se voit comme le prêtre. Vous savez qu'au temple, eh bien, il y a des victimes. Le prêtre présente les offrandes. C'est la base du sacerdoce universel chez tous les hommes. Bon, on amène des chèvres, des pots de manioc, n'importe quoi. Bon, et puis, il y a un prêtre, quelqu'un qui offre à la divinité. Bon. Donc, Paul se présente comme un prêtre qui présenterait à Dieu les nations, c'est-à-dire les convertis des nations, devenus croyants grâce à lui. D'accord ? Je puis donc me glorifier dans le Christ Jésus en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Bon, alors Paul dit ailleurs, il ne faut pas se glorifier, il ne faut pas se vanter. Alors l'important ici, c'est dans le Christ. C'est par le Christ, grâce au Christ, etc. Je n'oserais parler de ce que le Christ n'aurait pas fait par moi. Bon, ça, c'est toujours la litote. Hein. Je ne rougis pas de l'évangile. Ça veut dire je suis fier de l'évangile. Bon, hein, c'est l'orateur qui commence à parler en disant bon, je ne dirai pas tout ce que j'ai fait pour la ville de Marseille depuis 15 ans. Mais enfin, bon, et puis alors là, vous en avez pour une heure. Hein. Bon, enfin, donc il commence par dire je ne vous en parlerai pas, mais il vous en parle. Pour obtenir l'obéissance des nations, alors, terme aussi un peu technique, l'obéissance des nations, c'est l'obéissance de la foi, hein, pour amener à la foi les nations. Alors, en parole et en œuvre. En parole et en œuvre. Là, c'est pas Luc, hein, c'est Paul lui-même. Donc, il a parlé et il a agi. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est quoi ses œuvres ? Par la vertu des signes et des prodiges. Alors ça, c'est un doublé qu'on retrouve aussi dans Luc pour Jésus et pour les apôtres. Une fois de plus, j'insiste sur ce point de la figure de Paul, hein, que nous avons eu tendance un petit peu, depuis la Réforme en Occident, j'allais dire à protestantiser. On voit Paul comme un grand preacher, un grand pasteur, un grand prédicateur, un grand théologien, appelez ça comme vous voulez, un homme de la parole, éventuellement de l'écrit. Alors moi, je m'inscris un peu en faux contre ça, avec d'autres. Hein. Paul, c'est d'abord un pasteur, c'est d'abord un charismatique, c'est d'abord un chrétien de la première génération qui a reçu l'esprit du Dieu vivant. Et ça, ça fait faire des trucs un peu bizarres. Par exemple, vous rendez des gens aveugles, qu'on fait, on va y revenir, acte 13. Bon, vous guérissez des malades, vous ressuscitez des morts, enfin, vous faites des trucs un peu spéciaux. Hein? Bon. Par la vertu des signes et des prodiges, par la vertu de l'Esprit de Dieu. Alors, pourquoi on n'y est pas très attentif ? Parce que Paul, de fait, en parle peu, il mentionne ça en passant. Bon. Mais il a fait ça. Donc, quand Luc, dans les Actes des Apôtres, nous raconte un Paul qui guérit un paralytique. Un Paul dont, nous dit-il, il a trouvé deux belles images, Luc, pour comparer Pierre et Paul dans les Actes. Alors comment Pierre guérit dans les Actes ? Par exemple, mais après la belle porte, dans un sommaire, bon, à la belle porte, il parle simplement comme Jésus, hein, je te le dis, etc. Donc Pierre comme Jésus. Mais il y a encore plus fort. Il dit « dont l'ombre guérissait ». Hein, c'est-à-dire, Pierre passe, il y a le soleil, malade, Pierre ne touche pas, et le malade est guéri. C'est pas mal quand même. L'ombre, vous n'avez même pas ça dans l'évangile. L'évangile, vous avez le manteau. On touche la frange, les tzitzites du manteau, et ça suffit. Bon, ça c'est Pierre. Et Paul, démonstration, cascade difficile, Acte 19, des mouchoirs qui avaient une fois été touchés par Paul guérissaient les malades. Pas mal. Bon. Donc des êtres charismatiques. Alors les œuvres, c'est pas forcément des prodiges et des signes, c'est entre autres, j'y reviendrai, aussi les œuvres, c'est-à-dire les épreuves subies pour l'Évangile. 5 fois les 39 coups de fouet, 3 fois les verges des licteurs, etc., etc. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant en cercle jusqu'à l'Illyrie, un verset qui a provoqué des fleuves d'encre. Parce que quand est-ce que Paul a prêché, a annoncé le Christ à Jérusalem ? Au début de la lettre aux Galates, qu'est-ce qu'il nous dit ? Au début de la lettre aux Galates, donc l'autre grand passage biographique de Paul, il nous dit, bon, sans monter à Jérusalem, après sa conversion, trouver les apôtres, mes prédécesseurs, je suis parti en Arabie, puis je revins encore à Damas, ok, donc il aurait pu dire depuis Damas. Ensuite, après 3 ans, donc nous sommes en 36, 37, je suis monté à Jérusalem, rendre visite à Képhas. Et je suis demeuré auprès de lui 15 jours. Bon, 15 jours pour évangéliser Jérusalem, bon, même si vous êtes très très fort, c'est quand même un peu court. D'autant que il était là pour rendre visite à Képhas. Et je n'ai pas vu d'autres apôtres, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Donc, pas Jacques, l'un des douze, mais Jacques, le frère du Seigneur, qui est devenu le chef de la communauté chrétienne de Jérusalem. Et quand je vous dis cela, j'atteste devant Dieu que je ne mens pas. Prise solennelle de serment. Ensuite, je suis allé en Syrie et en Cilicie. Quelle est la capitale de la Cilicie ? Tars. Donc, petit indice qui montre que Luc, quand il dit que Barnabé est allé chercher Paul à Tars, bon, Paul lui-même dit qu'il est allé à Tars, donc après tout. Mais j'étais personnellement inconnu de visage des églises de Judée qui sont dans le Christ. On y entendait seulement dire que le persécuteur d'autrefois annonçait maintenant la foi. Bon. Donc, disons, en 50-51, là on est en 57-58, mettons en chronologie standard. Bon, donc, depuis Jérusalem, comprenez un centre mystico-théologique. Je suis repassé un peu Jérusalem, j'étais à Damas. Bon, bref, Jérusalem, c'est le centre de l'univers, le centre du monde, le centre, le lieu de la résurrection, tout ce que vous voulez. Donc, bon, ça colle pas si on dit que Paul a prêché à Jérusalem. Bon. Jusqu'à l'Illyrie. Alors, qu'est-ce que vous savez de l'Illyrie ? Ça se trouve où, l'Illyrie ? Pas mal. Alors, la Croatie, vous montez sans doute un peu haut. En gros, effectivement, la sud de l'ancienne Yougoslavie, Monténégro, Kosovo, Albanie, Serbie, Monténégro, cette zone-là. Bon, on n'a pas trop l'impression que Paul y soit passé trop, c'est-à-dire qu'il a suivi la via Egnata, c'est-à-dire la voie romaine que les Romains ont fait entre Thessalonique, voyez au nord de la Grèce, et le sud de l'Albanie. Là, vous avez une voie romaine qui traverse les montagnes. Et il est possible que Paul soit un peu baladé quand il était basé à Thessalonique sur cette voie-là. Donc j'ai procuré l'accomplissement de l'évangile du Christ. Tenant de la sorte comme un honneur de limiter cet apostolat, ma mission d'apôtre, aux régions où l'on n'avait pas encore invoqué le nom du Christ. Pour ne pas bâtir sur des fondations posées par d'autres. Bon, alors ça c'est un des points d'honneur de Paul. Son idée que j'annonce l'évangile là où personne n'est allé avant. Pourquoi ? Bon, premièrement, a priori, c'est plus difficile de partir de zéro. Demandez aux missionnaires qui ont commencé l'église dans des régions. Deux, ça fait partie de son idée, je suis le plus petit des apôtres. D'ailleurs, je ne mérite pas d'être appelé apôtre car j'ai persécuté l'église de Dieu, Corinthiens 15. Donc, moi, je prends les trucs les plus durs. Je suis le GI, le Marine, le commando, le parachutiste, je vais dans les coins durs. Et j'ai vu à Corinthe, j'ai fondé l'église à Corinthe, je vois que quelques années après, des gens disent, moi je suis à Képhas, moi je suis à Apollos, moi je suis au Christ. Bon. Donc moi, je veux pas arriver quelque part où les gens commencent à dire, mais qu'est-ce que tu viens faire là ? Nous, on a déjà été évangélisés par Jacques, Thaddée, Tartampion. Donc, voilà. Pas du tout au sens d'un isolement par rapport aux autres églises. Je vais revenir longuement sur ce point. Mais au sens d'une certaine, d'un honneur de démarrer à zéro. Notez donc que ça rend un peu problématique l'écriture de cette lettre aux Romains. Bon, je vais revenir sur ce mystère, parce que justement, quel apôtre a fondé l'église de Rome ? Vous allez tous me répondre Pierre. Mais non, Pierre il est arrivé bien après. Il est mort à Rome. Mais non, Marc, non. Non, a priori, vu la position de Rome, ce que dit Suétone sur les émeutes entre juifs et chrétiens, entre juifs chrétiens et juifs pas chrétiens, pour être plus précis, en 49 à Rome, l'église de Rome, elle date du début des années 40, ou de la fin des années 30. Elle est quasi concomitante à la naissance du mouvement chrétien. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de passages de bateaux entre Césarée et Rome, que des esclaves ont dû être vendus, des esclaves devenus chrétiens en Judée et Galilée qui sont arrivés à Rome, parce que c'est le gros trafic, des marchands, des affranchis. Donc, si vous voulez, le grand secret, mais c'est assez sympa, c'est comme l'église de Corée, qui a fondé l'église de Rome ? Eh bien, j'allais dire personne, enfin, je veux dire des chrétiens, quoi. Ils sont arrivés, ils étaient chrétiens, puis ils ont fait une église. Bon. Et donc, 20 ans plus tard, Pierre est arrivé. 20 ans plus tard, Paul, 25 ans plus tard, Pierre. Et puis, une fois de plus, d'ailleurs, c'est ce que dit l'église de Rome. Hein. Très frappant, l'église de Rome, depuis les origines, Clément et tout, la grande fierté de l'Église de Rome, c'est, il n'a jamais dit « on a été fondé par ». Il dit « nous avons la tombe de Pierre et de Paul ». Les deux colonnes, les deux apôtres, etc., ils sont là, ils sont chez nous, ils sont morts chez nous. Ils n'ont jamais dit qu'ils nous avaient fondés. Mais ils sont là. Et ça, c'est très important. Bon. Donc, il écrit quand même un petit billet pour demander une chambre qui fait 15 chapitres où il y a toute sa théologie, la lettre aux Romains, où il explique bien la foi, ce que c'est, etc. Bon. Donc, il faut qu'il fasse attention. Non, mais je ne vous évangélise pas, là. Non, je vous rappelle juste, je vous écris un peu, vous savez tout déjà, mais enfin, bon, très bien, je reviendrai là-dessus. Me conformer à ce qui est écrit, ceux à qui on ne l'avait pas annoncé le verront, ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Donc ça, c'est très intéressant, c'est Isaïe. Et c'est le fait que, plusieurs fois, Paul utilise Isaïe pour, donc, un modèle prophétique pour parler de sa mission. Bon. Alors, donc ce passage nous dit que Paul n'était pas seulement un homme de la parole, mais avant tout un missionnaire, un pasteur, hein, je l'ai dit. Un homme qui croyait aux signes de puissance que l'Esprit-Saint permet d'accomplir. Alors, si on continue, c'est bien là ce qui chaque fois m'empêchait d'aller chez vous. Très intéressant. Puisque je ne veux pas aller dans une église déjà fondée, ou en tout cas où enseignent d'autres apôtres. D'autres pasteurs. Donc, bien évidemment, il est obligé de dire, c'est bien pour ça que je ne venais pas chez vous à Rome, puisqu'il y avait déjà une église. Alors là, il y a un des versets les plus fantastiquement ironiques ou extraordinaires des lettres de Paul. Écoutez bien. Mais à présent, comme je n'ai plus de travail dans ces contrées, alors voilà, alors la Grèce, l'Illyrie, c'est bon, plus de travail. Il y a 2000 chrétiens, mais c'est bon, hein, sur 2 millions d'habitants. Mais job done, je n'ai plus de travail, c'est bon. Un peu phénoménal quand même. Et que depuis des années, j'ai un vif désir d'aller chez vous, quand je me rendrai en Espagne, bon, effectivement, c'est sur la route, car j'espère vous voir en cours de route et être mis par vous sur le chemin de ce pays. Notez, l'Espagne, ça se loupe pas trop facilement, enfin, quand vous allez vers l'ouest, plus ou moins, hein, au bout d'un moment, vous tombez dessus. Une fois que j'aurai un peu savouré la joie de votre présence, mais maintenant je vais à Jérusalem, pas complètement la même direction, Espagne, Jérusalem, pour le service des saints. Bon. Je reviendrai là-dessus. Donc, un guérisseur, un homme charismatique. Il écrit aux Galates 3:5, hein, celui qui vous donne l'Esprit Saint. Et qui opère parmi vous des signes de puissance, une amaïs. Le fait-il en raison de la pratique des œuvres de la loi ou parce que vous avez écouté le message de la foi, hein, obéi au message de la foi? Donc il y a eu la prédication de l'Évangile sous l'impulsion de l'Esprit-Saint s'accomplit de signes de puissance. 2 Corinthiens 12:11. Me voilà devenu fou, mais c'est vous qui m'y avez obligé. C'est vous qui aurez dû me recommander, car je n'ai rien de moins que ces super apôtres. Donc Paul ici se défend face à des prédicateurs chrétiens qui arrivent en disant « Oui, bon, Paul, c'est pas mal, mais on va maintenant vous apprendre le vrai christianisme. Vous avez installé sur votre logiciel le christianisme 1.0, nous amenons 2.0. Et dans 2.0, vous avez plein d'options. » On ne vous a pas encore expliqué dans 1.0. Alors là, Paul, ça l'énerve. Il dit non, moi j'ai annoncé l'évangile, tout l'évangile, rien que l'évangile, il manque rien. Donc ne vous laissez pas impressionner par des adventistes du 7e jour qui viennent vous dire « Ah mais non, ah, mais le samedi, il faut faire ci, il faut faire ça, et puis il faut manger ci, il faut manger ça. Ah bon, mais Paul, il ne nous l'a pas dit. Oui, non, mais il est pas mal, Paul, vous comprenez, c'est les rudiments, c'est le début, etc. » Nous, vous savez, moi à Jérusalem, la semaine dernière, j'ai vu Jacques, on fait comme ça. Ah bon, etc. Bon, alors... Les gens sont impressionnés. Bon. Donc là, Paul, ça l'énerve sérieusement. Il dit non, je vous ai annoncé l'évangile. Bon. Et les signes disent, je n'ai rien eu de moins que ces super apôtres, bien que je ne sois rien. Bon, moi-même, ce n'est pas important. Les signes distinctifs de l'apôtre se sont produits parmi vous. Alors c'est quoi les signes distinctifs de l'apôtre? Et c'est là que Paul est intéressant dans l'ordre qu'il donne. 2 Corinthiens 12:11. Patience à toute épreuve. Signe miraculeux, prodige, acte de puissance. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il met en tête la patience. Hupomone. Ça, c'est le terme le plus important, un des plus, termes pauliniens les plus importants. Hupomone. U-P-O-M-O-N-E, si vous écrivez en français. Hupomone. Qu'est-ce que ça veut dire? Hupo, ça veut dire dessous. Et menein, demeurer. On peut traduire en français ou dans les autres langues latines par courage, constance, persévérance, patience, endurance. Vous voyez la gamme. C'est le mot qu'emploie Luc, l'introduisant subtilement dans la bouche de Jésus, dans son évangile, quand Jésus, le Jésus lucanien, dit « C'est par votre hupomone que vous sauverez vos vies ». Connaissez ce verset, Luc 13. C'est par votre constance, patience, persévérance, courage, constance, que vous sauverez vos vies. Bon. Alors, moi j'aime bien l'expliquer par un... J'aime beaucoup les sports, mais ça c'est celui que j'aime pas, mais ça fait comprendre le truc. Je vais prendre le match de rugby France-Angleterre. C'est mieux que ce à quoi je pensais. Hupomenein, vous êtes dessous, vous êtes battu dans le jeu, vous êtes battu au point, vous êtes battu au score, vous êtes battu, vous êtes moins bon. Mais vous lâchez pas, vous êtes en dessous, mais vous tombez pas. Vous voyez? Donc, l'hupomenein, l'apôtre, c'est vous prenez des coups. Hein? Au départ, je parle souvent de la boxe. Vous prenez des coups en boxe, et c'est pareil dans un match où vous êtes mené. Donc, vous êtes dominé. Mais vous ne lâchez pas le morceau. Vous voyez, c'est ça, hupomenein. Vous êtes en dessous, mais vous restez. Et l'autre, il croit que c'est, ça y est, c'est bon, il vous a mis la tête sous l'eau, c'est bon, vous avez compris, vous êtes battu. Et il dit, non, je ne suis pas battu. Alors que vous êtes dessous. Bon. Donc, il met en tête sa résistance, qui s'est traduite notamment par les persécutions subies. Donc, voilà, sa constance d'apôtre. Mais il dit aussi, signe, prodige, acte de puissance. Ok. Vous voyez, c'est toute la logique de Paul. Je mets mon orgueil dans mes faiblesses. Hein. Ma grâce te suffit, ce qu'il dira ailleurs. Bon. Donc c'est plus par son endurance, son humilité qu'il veut impressionner que par les signes de puissance. Paul avait aussi le don des langues, mais pour lui, ce n'est pas le plus important. Hein. 1 Corinthiens 14, 18. Grâce à Dieu, je parle en langue plus que vous tous. Mais dans une assemblée chrétienne, je préfère dire 5 paroles intelligentes pour instruire plutôt que 10 000 en langue. Bon, ok, je sais faire ça. Mais ce n'est pas le plus important. Bon. Hein, Paul insiste sur la parole qui a du sens. Il s'est vu fondamentalement comme ayant reçu donc le charisme de l'annonce de l'évangile, aux nations. Il dira ailleurs, hein, je n'ai pas été envoyé, début de Corinthiens, pour baptiser. Alors on a envie de dire, attends, le baptême, ça va avec la foi. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il dit, oui, bon, j'ai baptisé Stéphanas, j'en ai baptisé 2 ou 3. Bon, enfin, je n'ai pas été envoyé baptiser. C'est-à-dire, le moment qui intéresse Paul, le moment où il dit, j'ai reçu un don de Dieu, c'est le moment de la naissance de la foi à l'écoute de la prédication première de l'Évangile. Vous vous mettez sur une place de marché, et vous commencez à annoncer l'évangile. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des gens qui rient, il y a des gens qui s'arrêtent, des gens qui vous jettent des pots de banane, etc. Bon, c'est bon. Vous vous mettez sous le portique de l'école du stoïque à Éphèse en acte 18. Bon, vous louez un bâtiment, vous mettez au premier étage d'une maison. Bon. Donc, ce qui intéresse Paul, c'est la première annonce de la foi. Évidemment, après, il y a une catéchèse et au bout d'un moment, il y a un baptême. Tout ça, Paul est bien d'accord. Et d'ailleurs, il parle beaucoup du baptême dans Romains. Romains 6, Romains 8. Mais ce qui l'intéresse, lui, disons, ce qui est son charisme à lui, c'est ça. Et c'est ce lien-là qui est le lien le plus important pour comprendre la personnalité de Paul. Parce que c'est ce lien... J'en reparlerai au point 3, qui fait de lui le père de ses convertis. confère la lettre à Philémon. Je te rappelle, mon cher Philémon, que tu as une dette envers moi, et que cette dette, c'est toi. Bon, donc tu me dois la vie. Donc, le moment de la naissance de la foi, où, bien sûr, ce n'est pas par des paroles de persuasion et de sagesse, ce n'est pas parce que je vous ai trompé que vous êtes devenu croyant, c'est parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur vous et que vous l'avez accueilli. Bon, toujours ce mystère de l'acte de foi. Hein, la foi, c'est un don ou c'est une décision? Les deux, mon général, comme on dit en français. C'est à la fois un don de Dieu et une réponse de l'homme, un don de Dieu et une décision de l'homme. Mais ce qui intéresse Paul, c'est cette réponse de foi à la parole qu'il prononce. Il reconnaît que tout vient de Dieu. Enfin, comme il dira dans Romains 10, si personne proclame, s'il n'y avait pas eu de missionnaire, il n'y aurait pas eu de converti. Il faut bien que quelqu'un commence. Évidemment, le missionnaire, il dit, moi je suis cendre et poussière, je ne suis rien. Mais il se passe quelque chose quand même. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont rencontré déjà des premiers missionnaires. Alors moi, j'ai pu encore en voir en 97 au Tchad. Et les vieux jésuites de 85 ans qui étaient arrivés en 47 dans des villages du pays Sahara, où il n'y avait jamais eu un missionnaire. Jamais. Donc vous arrivez sur la place du village, vous vous asseyez sur l'arbre et vous commencez à parler. Alors vous parlez quoi? Alors Paul, il avait l'avantage de parler grec. Et donc les gens qui parlaient grec, comprenaient le grec, pouvaient l'écouter. Le pauvre missionnaire, il a 300 mots de je sais pas quoi, de sango s'il vient du sud, ou une langue un peu ibaragouine, il fait rire les enfants. Bon, il dit des choses un peu bizarres. Et d'ailleurs, il me disait, une chose moi, qui m'a beaucoup intéressé, qu'évidemment, les premiers qui écoutent, c'est les enfants. D'abord, ils n'ont rien à faire, parce que les hommes sont au champ, les femmes à la cuisine, on ne va pas perdre 2 heures à écouter une espèce de type bizarre qui vient parler sur la plage du village. Bon. Donc, qui vous écoute? Les enfants entre, pas les tout-petits, les enfants entre 7 et 12 ans, vous voyez. Ils écoutent, ils réfléchissent, posent des questions, etc. Et puis, un an, 2 ans après, vous avez quelques enfants qui vont aller dans une école de catéchistes, ou qui vont demander le baptême, ou des adolescents. Ça, c'est intéressant de voir comment ça marche. Bon. C'est au moment où la foi naît dans le cœur de cet auditeur que Paul devient vraiment apôtre, devient père et acquiert son crédit. Bon. Alors, j'ai annoncé comment Paul a été un apôtre original, lui qui n'avait pas connu Jésus. Alors là, c'est quand même un des grands mystères du Nouveau Testament et un dilemme qui est extrêmement riche d'enseignements pour nous. Alors, pour nous, c'est évident, Paul est un apôtre. C'est même tellement un apôtre que quand on dit l'apôtre, dans le christianisme, ça veut dire Paul. Mais ce n'est pas évident du tout. Pas évident du tout, pour plusieurs raisons. D'abord, durant sa vie, il semblerait, avec un taux de probabilité assez important, d'un point de vue historique, que Jésus a appelé 12 individus et qu'il les a appelés apôtres. Vous connaissez tous cette scène. Les fameux 12, comme les 12 tribus d'Israël. Et que, au sein de ces 12, bon, vous avez 4, 4, 4, hein, les 2 paires de frères, Jacques et Jean, Pierre et André, puis 4. Bon. Après les 4, il y a les 3, évidemment, Pierre, Jacques et Jean. Et puis dans Pierre, Jacques et Jean, il y a Pierre, bon, qui manifestement a un rôle particulier avec les 12. Or, Paul n'a pas connu Jésus de son vivant, selon la chair. Il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Bon, ça, c'est ce que nous dit Luc. Ben, Paul l'a rencontré quelque part, ça c'est sûr. On va voir ce qu'il en dit. Alors, peut-on dire que Paul est un témoin du ressuscité? Et peut-on dire qu'il est apôtre? Alors, peut-on dire qu'il est apôtre? Maintenant, on a le Nouveau Testament canonique et reconnu qui a des lettres qui commencent par Paul apôtre. Donc, si vous voulez, le problème est un peu réglé canoniquement. Enfin, il faut quand même le méditer. Donc, aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 3 et suivant, il écrit « Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Vous avez une espèce de credo minimal ici, avec 2 fois selon les Écritures. « Qu'il est apparu à Képhas. » Donc c'est très intéressant que Paul utilise le nom araméen, hein, de Pierre, Képhas, le roc. Entre parenthèses, c'est un nom de Dieu, roc. Très intéressant que Jésus ait donné à Pierre un nom de Dieu. Puis au 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Bon, pas trop de traces dans les évangiles de ça. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent, quelques-uns se sont endormis, sous-entendu dans la mort. Ensuite il est apparu à Jacques, comprenez Jacques le frère du Seigneur. Alors notez, pas non plus l'un des 12. Puis à tous les apôtres. Alors, qui sont tous les apôtres? Puisqu'il a dit à Képhas, puis aux 12. Alors tous les apôtres, c'est les 12. Ou c'est un groupe plus important? C'est plutôt l'interprétation qui semble se dégager du chiasme. Et enfin, il m'est apparu, ofté, il s'est donné à voir, à moi aussi, comme un ectroma, donc un avorton, un mort-né. Bon, il y a beaucoup d'articles sur cette métaphore étrange. Bon, enfin, celui qui ne mérite pas d'être appelé apôtre. Donc ce texte nous fournit la première attestation de la tradition des apparitions pascales de Jésus. Ensuite, il nous dit que Paul a bien reçu des choses de la tradition avant lui. Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Alors c'est très important parce que souvent on présente un Paul un peu comme complètement indépendant de la tradition ou des apôtres. Et le Paul protestant, c'est le Paul, on ne retient que le Paul de Galates 1, 1 à 11. Et qu'est-ce qu'il dit ce Paul-là? Sachez-le mes frères, l'évangile que j'ai annoncé n'est pas selon l'homme. Ce n'est pas d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par une apocalypse, une révélation de Jésus-Christ. Donc, l'évangile, ce n'est pas d'un homme que je l'ai reçu ou appris. Et là, il nous dit, je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Donc, vous voyez, il faut qu'on tienne ça. C'est Paul, à quelques années d'écart, il ne se contredit pas quand même à ce point-là. Donc, il y a quelque chose qu'il a reçu indépendamment, on va dire, de toute catéchèse, et il a pourtant reçu des choses de la tradition chrétienne. Comme je dis souvent, il a bien été baptisé. Il ne s'est pas baptisé tout seul dans sa salle de bain. D'accord? Ça ne marche pas. Ce n'est pas valide. Bon. Il faut un autre. Il faut quelqu'un. Une communauté qui reçoit. Quand celui qui, dès le sein de ma mère, m'a mis à part et appelé par sa grâce, allusion à celui qui, dès le sein de ma mère, m'a appelé, Jérémie, éventuellement Isaïe, en tout cas c'est un prophète, prenons Jérémie, a daigné révéler en moi son fils, donc c'est un père puisqu'il révèle son fils, donc le père a daigné révéler en moi son fils, pour que je l'annonce parmi les païens. Alors là, vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant le récit d'Acte 9. On voit bien que pour Paul, vocation et mission sont consubstantielles, ou en tout cas, découverte du Christ et mission. C'est dans le même mouvement, dans le même instant, qu'il a révélation de la messianité, de la divinité de Jésus, et qu'il reçoit une mission, un job à faire. Aussitôt, sans consulter la chair et le sang, Bassar Vadam, c'est une expression biblique, hein, la chair et le sang, c'est-à-dire les hommes, ceux qu'on reconnaît, bon, sans monter à Jérusalem trouver les apôtres, mes prédécesseurs, je suis parti en Arabie. Bon. Et ensuite, on arrive au texte que j'ai lu tout à l'heure. Puis je suis revenu à Damas, et après 3 ans, je suis monté à Jérusalem. Bon. Le point ici que Paul veut dire, c'est une défense par rapport à des gens qui disent qu'il aurait dû, enfin qu'il dépend d'autres apôtres, ou qu'il est mandaté, ou que sais-je. Notamment par rapport à ces gens qui disent qu'ils se revendiquent de Jacques, ou quelques-uns qui se disent de Jacques. Bon, Paul n'attaque pas frontalement Jacques. Bon. Des gens qui prétendent qu'ils sont de Jacques. Bon. Paul, il dit, moi, je suis de personne. C'est directement, effectivement, le Seigneur qui a choisi de se révéler à lui. Donc, Paul, pourtant, a été catéchisé, a été baptisé. Bref, Paul a reçu des traditions et les a transmises. En 1 Corinthiens 15, il parle ici de l'apparition de la résurrection. Et un peu plus loin, vous savez qu'il va parler de l'Eucharistie. « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu, la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit le pain, etc. » Bon. Donc ce que j'ai moi-même reçu. Donc c'est une manière de dire, il ne dit pas reçu par révélation. Bon, en gros, Paul ne prétend pas, si vous voulez, que le catéchisme de l'Église catholique a été greffé sur son... par télépathie au moment de la route de Damas, et qu'il a eu toute la catéchèse direct, tac, d'un coup, tout ce que Jésus avait dit, top, toc, incorporé. Non. Il a été dans des communautés chrétiennes. Donc c'est très important que Luc, enfin c'est assez logique que Luc nous le présente aussi en acte 9, en acte 13, 1 à 5. Il y avait dans l'église d'Antioche des docteurs et des prophètes, Barnabé, Manaen, etc., etc., Saül. Bon, donc il a été au milieu d'une communauté chrétienne de gens comme Barnabé. Alors Barnabé, lui, Barnabé, c'est un chrétien de la première minute quasiment. Donc, ces gens-là, on peut imaginer que de temps en temps, ils parlaient de Jésus. On peut supposer, quand même. C'est pas une affirmation folle. Bon. Donc, ils racontaient des paraboles, ils racontaient la passion, ils racontaient des choses. Du coup, vous me direz, ça suscite un petit mystère. C'est pourquoi Paul cite si peu Jésus dans ses lettres. Quand je dis si peu, c'est quasiment jamais. Et que quand il cite, effectivement, il cite toujours l'Écriture, c'est-à-dire l'Ancien Testament. C'est un peu surprenant. Alors évidemment, faire parler un silence, c'est un peu compliqué. Mais, alors, Paul nous transmet, il y a trois choses directes où il dit, Jésus a dit, et puis il y a des échos. Alors les trois choses directes, c'est l'Eucharistie, c'est le divorce, 1 Corinthiens 7, « Je vous dis, non pas moi, mais le Seigneur Jésus, tout homme qui, etc. » La fameuse chose que Jésus aurait sans doute dû pas dire, qui nous embête bien, mais enfin il l'a dit, Paul nous le transmet, bon, très bien. Troisième chose, est-ce que je vous l'ai dit, si je vous l'ai déjà dit, vous m'interrompez quand même, si je commence à radoter, c'est assez paradoxal, parce que c'est là où Paul dit, « Oui, je sais que Jésus a dit ça, mais moi je veux pas en bénéficier. » C'est la fameuse affaire « Tout ouvrier mérite son salaire ». Bon, donc les autres apôtres viennent et sont nourris, logés par les communautés. Bon. Paul, il dit « Non, 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 moi, parce que j'ai persécuté, je suis allé faire une retraite chez les jésuites et j'ai décidé dans mon cœur que je ne prendrai pas d'argent. Bon, » voilà. Donc c'est ma décision spirituelle, foutez-moi la paix. Oui, les autres font autrement, ils ont le droit, c'est leur problème. Jésus a dit « Je sais, très bien, mais moi, je ne veux pas faire comme ça. » C'est un cas un peu paradoxal, parce qu'il dit « Jésus a dit que, ok, je conteste pas, mais moi je vais pas le vivre. Je travaille de mes mains, je tisse mes tentes, mon père m'a appris et je suis content. Voilà. » Alors, sachant qu'à la fin du 1er siècle, 40 ans après Paul, ça va devenir un gros problème dans les communautés, c'est les mauvais pasteurs. Alors les mauvais pasteurs, il y en a deux types. Vous avez le gars qui transmet une mauvaise doctrine, les faux docteurs, les loups déguisés en brebis, ceux qui annoncent des gdoses bizarres, qui prennent les femmelettes au cœur sensible dont parle de Timothée, des femmes qui n'ont rien à faire et qui écoutent des doctrines bizarres, et qui annoncent des doctrines bizarres. Ça, c'est un genre. Le deuxième genre, c'est Tartuffe, si vous voulez. C'est le gars qui vient, et puis il est nourri, logé, et puis de temps en temps, il dit, oui, Jésus a dit, Dieu est amour, c'est bien, etc. Bon. Puis pendant ce temps, il reste là un mois, la vie est belle, etc. D'où on a des législations chez les premiers chrétiens, à la fin du 1er siècle, qui vont commencer à mettre de l'ordre là-dedans. Donc la didaché des 12 apôtres, l'enseignement des 12 apôtres, vers 95, va dire, voilà, si l'apôtre vient 3 jours, c'est bien, c'est un vrai apôtre. Vous le nourrissez, vous le logez 3 jours. S'il reste plus de 3 jours, c'est un faux prophète. Oui, donc l'idée, c'est de dire, bon, faut pas pousser non plus, quoi. Donc... Bon, un prêtre qui arrive dans un village africain, qui dit, bon, on lui donne un bol de riz, on partage la nourriture du village, on lui paye l'essence éventuellement. Enfin, s'il dit, bon, alors en plus, vous me donnez ça, ça et ça, et puis je veux ça, ça et ça, là, il y a un problème. Et puis il reste une semaine, et puis il faut que toutes les familles du village lui fassent le poulet tous les jours, là, un problème. Bon. Donc, vous voyez, ça, c'est des règles très précises qui se mettent en place. Donc Paul, il voit bien le danger, il dit donc, moi, comme il le dira plusieurs fois, est-ce qu'une seule personne peut m'accuser d'avoir profité de vous? Est-ce que j'ai abusé d'une personne? Est-ce que j'ai volé une personne? Bon. Donc il met son point d'honneur à être inattaquable au plan financier. Bon. Alors, Les allusions, c'est plus délicat. Par exemple, à la fin de Romains, il dit « ne rendez pas le mal pour le mal ». Alors, on peut relier ça un petit peu, si vous voulez, au sermon sur la montagne. Mais ce n'est pas une citation directe. Il ne dit pas « Jésus a dit ». Bon. Dit autrement, certains enseignements de Paul rejoignent bien l'enseignement de Jésus, mais c'est difficile à prouver souvent. Alors, c'est intéressant parce que je refais un peu d'œcuménisme contemporain, de la situation de notre monde chrétien qui diminue, bon, enfin quand même, 2 milliards de personnes, 600 millions d'évangéliques, 1 milliard 200 millions de catholiques. Bon, les évangéliques, ils disent Paul, 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 hein, le message, le kérigme. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas que Paul. Il y a les évangiles. C'est-à-dire que l'Esprit-Saint a voulu que nous n'ayons pas seulement le kérigme, hein, Jésus-Christ est mort pour toi, pour te sauver. Mais c'est qui Jésus? Il a dit quoi? Il a fait quoi? Une fois de plus, il ne s'est pas incarné la veille du dimanche des rameaux. Après tout, s'il suffisait de mourir pour nous, de ressusciter, ce n'était pas compliqué. On prend une soucoupe, on arrive la veille du dimanche des rameaux, on vit la passion, et puis c'est bon, on ressuscite. Hein? Non. Il s'est fatigué quand même pendant 3 ans, Jésus. Il a prêché, guéri, enseigné, il a fait des choses. Bon. Grâce aux évangiles, nous avons une couleur de ce à quoi il ressemblait quand même. Et c'est, je crois, très important humainement, anthropologiquement. Nous avons un portrait de Jésus qui est assez fidèle, et les 4 évangiles, malgré leurs différences, on voit bien qu'ils parlent de la même personne. Imaginez un Nouveau Testament où nous n'aurions que les lettres de Paul. Ben, franchement, ce serait sec, hein, sur Jésus. Il s'appelle Jésus. Bon, déjà, on a son nom, c'est pas que le Christ, il s'appelle Jésus. Dezio, Galates 4, il est né d'une femme. C'est pas un scoop absolu, c'est quand même le cas de beaucoup d'entre nous. Il est né d'une femme. 3, il était juif, bon, on peut en trouver, ça se trouve, on peut voir à quoi ça ressemble. Et puis voilà, avant de mourir, il a dit un truc bizarre sur le pain et le vin. Il était contre le divorce, vraiment, à croire que son, évidemment, une obsession. Bon, il est venu pour nous dire un truc sur le divorce, bon, très bien. Et puis, il a dit quand même ce scoop fondamental, tout ouvrier mérite son salaire. Bon, Confucius a dit à peu près la même chose, il n'y a pas besoin d'une révélation de Dieu pour nous dire tout ouvrier mérite son salaire. Comme je dis souvent, il n'y a pas besoin d'une incarnation de Dieu pour nous dire un aveugle qui guide un aveugle, tous deux tomberont dans un trou. Si vous voulez, ça, tout le monde à peu près d'accord. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Et c'est très important que ce soit dans la Bible. C'est le point de contact entre la révélation et la sagesse des nations. Hein? Bon, les proverbes, toute la littérature de sagesse. Et Jésus utilise souvent la littérature de sagesse. Par exemple, il dit des trucs vachement révolutionnaires. Avant de construire une tour, il faut s'asseoir et réfléchir pour voir si on a l'argent pour construire la tour. Ouais, bon, je crois qu'avec notre raison humaine, on pouvait à peu près arriver, si vous voulez, à cette révélation énorme. Bon. Mais c'est très important qu'on ait ça, parce qu'on voit que Jésus, c'est pas uniquement, c'est pas d'abord un illuminé eschatologique qui annonce des trucs, génération adultère, la foudre de Dieu va vous écraser. Non. C'est quelqu'un qui raisonne sur la création, qui a plein de bon sens, qui a plein d'humour, qui a plein de sagesse. C'est quelqu'un qui a ce piano-là de la sagesse. Bon. Une fois de plus, on n'aurait que Paul. Jésus, on aurait un portrait extrêmement sommaire et qui nous dirait vraiment très peu de choses de l'homme. Donc le Nouveau Testament, c'est les lettres et les évangiles. Bon. Donc le Christ est mort pour nous, d'accord, mais on sait qui c'est et pourquoi. Hein? Jésus a fait et dit des choses importantes avant sa passion. Alors je reviens à ce texte d'1 Corinthiens 15:3. Il s'est donné à voir. Donc, la chose clé est que Paul dit qu'il a vu le Seigneur. Alors, il le dit là, en 1 Corinthiens 15, il le dit en 1 Corinthiens 9. Alors, je vous rappelle ce petit passage assez explicite. « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ?» Il met au défi les Corinthiens. Et si pour d'autres je ne suis pas apôtre, oui, c'est un persécuteur, il n'a jamais vu Jésus, on ne sait pas d'où il sort, il n'est pas l'un des 12, etc. Pour vous au moins je le suis, car c'est vous qui, dans le Seigneur, êtes le sceau de mon apostolat. Dit d'une autre manière, vous êtes devenu chrétien grâce à moi, si ce n'est pas ça un apôtre, c'est quoi? Bon. Mais il ne dit pas, voilà, j'ai reçu dans la prière un appel à être... Non, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Donc, si vous voulez, il faut prendre ça quand même au sérieux. Bon. Donc, quelque part, il se met en série avec des témoins de Pâques. Ofté, 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 il s'est donné à voir, il s'est donné à voir, il s'est donné à voir. Donc c'est théologiquement très important. Parce que, alors, si vous prenez, c'est là que Luc est intéressant. Parce que Luc, de l'avis un peu unanime de tout le monde, Luc, c'est plutôt un Paulinien. Bon, c'est pas un scoop, il parle beaucoup de Paul, et Paul est un super-héros des Actes des Apôtres. Bon. Mais Luc, il ecclésialise, il remet Paul vraiment dans la communion, dans la série avec Pierre. Bon. Alors, Paul a converti des païens, mais oui, mais Pierre aussi avant, Corneille le centurion. Bon, ben Pierre et Paul, même combat, Pierre et Paul, même théologie, Pierre et Paul, même miracle, Pierre et Paul, même discours. Bon, Luc, il nous dit, attendez, arrêtez d'opposer. Pierre et Paul, ils sont cul et chemise, ils sont frères, c'est la même chose. Bon. Mais Luc nous donne quand même une théologie des témoins de la résurrection, qu'on a entendu au début des Actes des Apôtres, qu'on entend à la Pentecôte, vous la connaissez, qui est quand même très précise. Il dit, c'est quoi un témoin de la résurrection? Bon. Alors. Discours de Pierre. Alors. Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes les témoins. Bon. Alors, c'est qui les témoins? Je ne vais pas arriver à retrouver le passage quand on cherche. Voilà. Oui, c'est plutôt en 1.21. Il faut donc, pour remplacer Judas, hein, vous savez, on choisit Matthias. Il faut donc que de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, hein, 1.21, acte 1.21. En commençant au baptême de Jean, il est exigeant, il fallait être là dès le début, il ne fallait pas rater un épisode, il fallait être au baptême de Jean. Jusqu'au jour où il nous fut enlevé, il y en est un qui devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. Et après, dans le récit, il y a les apôtres, et Paul n'est en général pas qualifié d'apôtre, ni Barnabé d'ailleurs. Donc là, Luc, en quelque sorte, concède ce point théologique aux pétriniens, à la grande église pétrinienne qui va d'Antioche, Césarée à Rome, en disant, ok, il y a une espèce quand même de statut tout à fait éminent, et voilà. Bon. Mais alors Paul? Alors Paul, c'est une exception, parce que il n'était pas là dans la vie publique, il n'était pas là à Jérusalem après la résurrection. Comment ça marche? Alors, vous avez un théologien actuel bien connu, quand même, je pense, Joseph Ratzinger, vous avez dû entendre parler, qui a écrit sur la question dans son chapitre 9 du deuxième volume sur Jésus, consacré à la passion et la résurrection. Alors, comme c'est un bon théologien catholique, il trouve toujours la solution. On trouve toujours la solution en cherchant bien. La solution, c'est que, il y a une théorie, hein, il a raison, Luc, mais il y a une exception. C'est-à-dire que Dieu a décidé qu'il y aurait une exception. C'est-à-dire que Paul serait apôtre. Quelqu'un qui n'a pas connu Jésus selon la chair, qui n'était pas à Jérusalem après la résurrection. Luc, parce que Luc, si vous voulez, c'est quand même pédagogique, il nous dit, voilà, il y a la résurrection, il y a l'ascension, et puis il y a la Pentecôte. Vous avez raté le film, vous arrivez à Jérusalem 51 jours après Pâques, c'est fini. Il n'y a plus d'apparition, c'est fini. C'est bon. Bon. Mais Paul, à ce moment-là, il n'était pas dans le coup. Il était en train d'étudier Isaïe dans la troisième rue à gauche, au fond du quartier X, Jérusalem. Bon. Ou je ne sais pas où d'ailleurs, ou à Tarse. En tout cas, il n'était pas là. Donc c'est un petit peu un problème. Alors, pourquoi c'est capital? Bon. Parce que notre foi a deux facettes. On peut toujours dire, et c'est vrai, que notre foi repose sur la parole des 12. Alors dans le credo, on appelle ça que l'Église est apostolique. Une des choses qui fait qu'on est chrétien, c'est que nous croyons la parole d'autrui. Nous croyons la parole des chrétiens qui nous ont précédés et dont le témoignage remonte directement, à un moment donné ou à un autre, sur des témoins vivants, visuels, concrets, alors on va revenir sur ce qu'ils ont vécu, mais enfin, de la résurrection. Bon, ça, c'est indéniable. C'est le patrimoine commun de tous les chrétiens. Nous sommes en partie Vous savez, il y a l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Moi, j'ai pas vu l'ours, mais j'ai vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Ou le crocodile, ou l'hippopotame. Bon. Moi, je l'ai pas vu. J'ai confiance dans la chaîne. Bon. Mais c'est pas que ça. Nous croyons aussi à partir d'une expérience personnelle, à son niveau, qui vient valider par ses propres indices, et non pas preuves, la foi apostolique. Donc, nous croyons sur la parole des apôtres, mais pas que. Et ceci nous protège, hein, aussi, si vous voulez, de la nostalgie. Ah, si j'avais été sur les bords du lac, ah, si j'avais rencontré... Ah ben là, ça aurait été facile. Quoique, on s'illusionne. Là, j'aurais cru facilement. Si j'avais pu mettre ma main en face... Ah, tristesse que je vienne 1000 ans, 2000 ans après. Bon. Non. Bien sûr, notre expérience sera différente de celle des apôtres, comme celle de Paul a été différente. Mais c'est une expérience du Christ. En d'autres termes, Paul a en commun avec les apôtres d'avoir fait une expérience radicale du Christ ressuscité sous l'angle de « il m'est apparu ». Bon. Mais il a en commun avec nous de n'avoir pas connu Jésus selon la chair, ni après la résurrection. Si vous voulez, Paul, c'est un peu le chaînon manquant entre les apôtres et nous. Il a un point commun radical avec les apôtres et il a un point commun radical avec nous. Alors, je reviendrai sur qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin de Damas. Et bon, il n'a pas connu le Christ selon la chair, il le dit d'ailleurs. Et pourtant, il dit « j'ai vu le Seigneur ». Du coup, qu'avons-nous en commun, nous, les apôtres, Paul et nous? Eh bien, c'est la foi. Alors, j'insiste toujours que la résurrection, y compris pour les 12, Marie-Madeleine et les autres, est une expérience de foi. Qu'il y a entre la foi des apôtres et notre foi, peut-être une différence de degré, si vous voulez, il y a une différence en tout cas, mais pas de nature. Les apôtres, comme Paul, comme nous, ont eu à poser un acte de foi. Hein? Les enfants en catéchisme, ils posent une bonne question, comme toujours. Ils disent, mais enfin, c'est bizarre. Marie-Madeleine, elle connaît super bien Jésus, elle l'aime beaucoup, et puis alors elle ne le reconnaît pas, elle le prend pour le jardinier, enfin c'est quand même incroyable. Les deux disciples d'Emmaüs, ils connaissent super bien Jésus, et puis alors ils marchent 2 heures avec lui, ils ne savent pas qui c'est. C'est bizarre, c'est quelque chose qui ne va pas. Bon. Donc c'est une très bonne question, ça montre que les récits évangéliques qui nous sont faits nous montrent l'espace de la foi, c'est-à-dire qu'il y a eu un chemin de foi à faire. Dit autrement, actuellement, vous ne posez pas un acte de foi en me voyant. Ou alors vous êtes un peu... Il y a un petit problème. Vous savez que je suis là, vous me voyez de manière extérieure, et vous dites, il est là, je n'ai pas à le croire ou à ne pas le croire, c'est un fait. Bon. Or, c'est ça que Ratzinger commande très très bien dans le chapitre 9, il y a dans les témoignages de la résurrection quelque chose d'unique dans le sens d'une extériorité, d'un corps autre, qui se donne à voir dans une extériorité, et il y a en même temps une expérience de foi. En d'autres termes, comme il dit, c'est pas un truc mystique. C'est pas au troisième ciel, ils sont pas élevés, et puis ils voient des nuages, et puis une forme, ça doit être Jésus. Non. Bon. Donc, c'est pas, on les décrit pas en prière, après 3 heures de transe, après avoir jeûné pendant 3 jours, et à 2 heures du matin, une grande lumière apparaît et leur dit, je suis Jésus. Non, 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 non. Donc, il y a quelque chose d'assez stupéfiant, unique, herméneutiquement, philosophiquement, effectivement, une survenue, dans une forme corporelle, sous une certaine forme d'extériorité, mais qui pourtant nécessite un acte de reconnaissance, d'où un dialogue. Donc, Paul est quand même qualifié d'apôtre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin de Damas? Il vaut mieux que je prenne la pause, parce que sinon, ça va mal finir. Donc, nous reprenons à 9. 59. Voilà, voilà. Donc cette fameuse expérience qu'on appelle celle du chemin de Damas. Alors, j'ai dit tout à l'heure dans Galates, en lisant dans le début de Galates, il y a ce passage qui dit Bon, quand celui qui m'a mis à part, donc là, Paul parle de cette expérience-là, c'est-à-dire cette espèce d'expérience radicale, centrale, inaugurale, de retournement complet de sa vie, qu'on appelle l'expérience de Damas. Bon. Aussitôt donc, sans monter à Jérusalem, je m'en allai en Arabie, puis je revins encore à Damas. Donc, effectivement, on peut supposer que ça a quelque rapport avec Damas. Cela dit, Paul, dans ses lettres, ne le dit pas explicitement. Donc, Luc nous en donne trois récits détaillés, comme vous savez, actes 9, 22 et 26. Donc, récits sur lesquels il y a une bibliothèque de thèses, mais enfin, l'une des dernières est celle d'Odile Flichy, ma collègue qui enseigne dans cette maison, qui l'a faite avec Daniel Marguerat. Et d'ailleurs, si la chose vous intéresse, Daniel Marguerat a sorti, donc, vous savez, il y a 4 ans, commentaire des actes des apôtres, chapitre 1 à 12, donc lisez le chapitre 9, et il présente un peu en 25 pages ce qu'on peut dire sur l'expérience de Damas au niveau du chapitre 9. Bon, et le deuxième volume du commentaire doit sortir en fin d'année. On aura enfin un commentaire complet récent sur les actes. Et par ailleurs, dans une perspective qui nous va bien comme catholiques, hein, théologiquement, on est assez à l'aise avec l'approche de Marguerat. Alors, dans acte 9, c'est raconté par le narrateur. Dans acte 22, Paul parle, c'est toujours le narrateur, Paul fait un discours aux Juifs, et en acte 26, aux Grecs. Bon, donc on a un petit peu trois versions. Voilà. Avec des petites différences. Bon. Il n'y a pas de contradiction importante entre ce que dit Luc dans ces trois récits et les bribes que nous dit Paul dans la lettre aux Galates, à la fin de Romains 15 où j'ai lu tout à l'heure, et puis dans Corinthiens. Bon, en gros, Paul parle peu de cela, mais toutes ces lettres témoignent qu'il s'est passé quelque chose de suffisamment grand d'ailleurs, pour qu'il puisse y faire référence en utilisant le langage de la vocation prophétique. On peut dire un petit écart, c'est, si vous voulez, que dans les lettres de Paul, il insiste plus sur la dimension visuelle, Jésus, hein, alors que dans les actes, la dimension auditive semble plus marquée, même s'il y a une lumière. Bon. Il y a la voix. Il entendit une voix qui disait. Bon. Par ailleurs, ça je trouve ça assez génial, Luc introduit le récit dans acte 9 par un système de double vision. Ça c'est un dispositif que Luc aime beaucoup. Hein, c'est les systèmes de l'Esprit-Saint est un entrepreneur, entremetteur de rencontres. Donc il apparaît à Élisabeth, il apparaît à Marie, il apparaît à Marie, et hop, il apparaît à Corneille, il apparaît à Pierre, et boum, ils vont se rencontrer. Donc l'Esprit-Saint, il complote avec un et avec l'autre, puis à un moment donné, il y a rencontre. Donc là, l'Esprit-Saint, enfin, c'est pas l'Esprit-Saint, Jésus, apparaît à Paul, et il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananie, le Seigneur l'appela dans une vision, Ananie, me voici Seigneur, et puis il explique à Ananie des choses. Et puis Ananie et Paul se rencontrent, et il est baptisé. Notez que c'est uniquement à Ananie, alors ça ecclésialement c'est génial, c'est uniquement à Ananie que le Seigneur lui dit « Va, car cet homme m'est un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations, les rois et les Israélites. » Alors, instrument de choix, hein, littéralement c'est un vase, ce que est, expression que Paul emploie aussi par ailleurs, les vases de colle et vases de miséricorde, bon, pour porter mon nom comme un vase porte du parfum, devant les nations, les rois et les Israélites. Et de fait, Luc va nous raconter comment Paul parle aux nations, bon, aux Lycaoniens, à Athènes, parle devant des rois, bon, des gouverneurs au moins, Félix, Festus et le roi Agrippa à la fin, et puis les fils d'Israël, eh ben, au temple, etc. Bon. Moi-même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Alors là, on annonce un peu les souffrances de l'apôtre, semblables aux souffrances du Messie. Alors c'est intéressant qu'on se dit, alors là, à la fin du récit, on se dit, mais Ananie, il a quand même expliqué à Paul ce que le Seigneur lui avait dit, parce que relève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Bon, il entre, mais bon. On peut supposer, c'est ça, c'est assez beau ecclésialement, que Anani lui dit, il faut le croire, Anani lui dit, tu sais, dans ma vision, j'ai vu le Seigneur me dire, tu seras ceci ou cela. En tout cas, nous, comme lecteurs, nous avons cette information, et nous nous dit quand est-ce que Paul va commencer à être cet instrument de choix. Et comme après, on part avec Pierre et Corneille, on est là, le suspense monte, quand est-ce qu'il va commencer à être apôtre auprès des nations? Alors, c'est une voie, mais, alors, en acte 22, une grande lumière venue du ciel m'enveloppa de son éclat. Alors, la lumière, c'est aussi une dimension visuelle. Et j'entendis une voix qui me disait, Saoul, Saoul, bon, etc. Il y avait là un certain Anani, j'allais le voir, bon. De retour à Jérusalem, il m'est arrivé, alors là on apprend une info de plus qu'on n'avait pas dans Acte 9, un jour que je priais dans le temple, 22-17, hein, Acte 22-17, de tomber en extase. Je vis le Seigneur qui me dit. Alors, Luc a l'air de dire, c'est pas forcément au moment de Damas même qu'il y a eu la vision, mais lors d'un épisode ultérieur qui entre pour le coup vraiment dans ce que Ratzinger appelle la catégorie des expériences mystiques. Une extase, c'est un terme précis, jamais la résurrection, les apparences, les apparitions du ressuscité n'entrent dans la catégorie extase dans les évangiles. Bon. Qui me dit, hâte-toi, sors de Jérusalem, car ils n'accueilleront pas ton témoignage, Seigneur, ils savent que... Il me dit alors, va, c'est au loin, vers les païens, que moi je veux t'envoyer. Bon. Fin du discours. Donc voyez que cette affaire-là, de retour à Jérusalem, c'est une autre apparition. Bon, même si justement, c'est pas trop une apparition dans les trois récits, dans Actes. Alors, les exégètes ont beaucoup discuté, les théologiens, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, un des grands spécialistes de ça, c'est le meilleur exégète coréen depuis 40 ans, qui s'appelle Si-Yoon Kim. Kim Si-Yoon, protestant, et qui a fait sa thèse dans les années 70 sur Damas, hein, l'impact de Damas sur la théologie de Paul. Résumons un peu. On part du fait, on est bien d'accord, que Paul ne connaît pas Jésus, il l'a jamais vu. Bon. Si vous voulez, si ma grand-mère, plutôt si ma mère m'apparaît en songe, je vais la reconnaître, je la connais, je l'ai vue, je vais dire c'est maman. Il n'y a pas besoin de dire à propos c'est maman. Mais je le vois bien. Hein. Bon. Donc, par contre, si quelqu'un apparaît que vous n'avez jamais vu, il faut bien qu'il vous dise qui il est, si vous ne savez pas qui il est. Vous voyez, pour Paul, à la différence d'autres cas, il faut bien que la personne s'introduise. Je suis Jésus que tu persécutes. Ça pourrait être la simple apparition d'un homme, bon, injustement condamné, qui s'appelle Jésus, bon. Mais c'est un peu plus que ça, parce que, manifestement, dans cette rencontre, Paul comprend que ce que disent les chrétiens de Jésus est vrai, et que ce que lui dit jusque-là est faux. Donc, le crucifié Jésus de Nazareth, dont il pensait qu'il était maudit par Dieu, qu'il était trompeur d'Israël, cet être-là est, alors c'est ça le point, dans la lumière même de Dieu, qu'on peut appeler par certains côtés dans la gloire même de Dieu. Donc ce n'est pas uniquement le statut de ressuscité quelque part, c'est l'identité au statut divin, c'est plus que ça. Au sens justement de Daniel, où je vis le Fils de l'homme assis à la droite, bon, ou d'Étienne à la droite de la puissance, hein, sur un trône grand et élevé. Bon. Donc, il est pleinement dans la lumière de Dieu. Donc, c'est là où il y a le renversement complet de sa vision. Tout ce que je disais de lui était faux, ce que je persécute est vrai, Jésus est vivant, mieux encore, il n'est pas seulement un nice guy, hein, un bon rabbin libéral sympathique, il est associé à la divinité. Il est associé à la lumière même de la divinité. Tout ça, dans un instant, Paul comprend ça. Il est dans la gloire même de Dieu. Et que, par ailleurs, s'en prendre aux chrétiens baptisés, c'est s'en prendre au Christ lui-même. Bon. Je suis Jésus que tu persécutes. Alors, il fait une hypothèse qui me semble intéressante. Il dit, le verset de 2 Corinthiens 4:6 nous dit sans doute un élément de l'expérience personnelle de Paul, même si ce n'est pas présenté comme tel en 2 Corinthiens 4:6. Que dit Paul là? Il dit, en effet, le Dieu qui dit que des ténèbres resplendissent la lumière est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. Cette phrase-là semble correspondre par certains côtés à ce qui est dit de Galates et ce que Luc nous en dit dans les Actes. Donc, une expérience unique dans laquelle un homme, mais dont les traits n'ont pas de sens pour lui, puisqu'il ne le connaît pas, mais dont il perçoit, qui dit « je suis Jésus », ok, donc c'est bon, je sais qui c'est Jésus. Vous voyez, ce que je cherche à dire, c'est que c'est pas seulement qu'il est ressuscité, entre guillemets. Après tout, on pourrait dire comme Abraham, Jacob, Moïse, les autres, enfin, même si c'est avant la fin des temps, enfin, c'est pas non plus un prophète, après tout, ça pourrait être Élie, Moïse, bon. Non, il comprend, sans que ce soit évidemment démontrable, si vous voulez, c'est pas un longtemps, en d'autres termes, pour le dire dans le langage chrétien, qu'il est Dieu. Alors, on est encore avant qu'on réfléchisse théologiquement sur la Trinité, sur tout ça, etc. Bon. Mais le point, dans une théologie de la gloire, dans une théologie de la lumière, dans une théologie des trônes, dans une théologie, voilà, il comprend que le sort de ce Jésus, c'est non seulement le Messie, mais le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, etc., etc. Alors, par rapport à sa théologie de la grâce, évidemment c'est intéressant, parce que Paul va beaucoup insister là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir croyant? Qu'est-ce qu'il faut, quelle œuvre il faut réaliser? Réponse, aucune, si ce n'est le don de la foi. Il n'y a aucun préalable. Quel mérite, quelle chose ai-je pu faire pour mériter ce don? Réponse, rien. Paul n'a strictement rien fait qui justifie l'appel insondable et miséricordieux de Dieu, qui lui pardonne en Jésus. Voilà, il comprend d'un coup qu'il est choisi, appelé, pardonné, etc. Donc c'est un complet renversement de ses choix religieux. Alors c'est pour ça que le terme « conversion » qui est souvent employé dans le langage courant, dans la langue française, et pas seulement, et y compris dans la fête du 25 janvier, est extrêmement ambigu, parce qu'il y a au moins deux sens premiers du mot « conversion » en français qui ne collent pas. D'abord, une conversion au sens moral, si vous voulez, à la Charles de Foucault, il était un grand pécheur, il est devenu juste, pas du tout. Paul dit « quant à la justice que donne la loi, j'étais irréprochable ». Donc, si vous voulez, imaginez le degré de rigueur dans l'éthique, les commandements d'un ultra-orthodoxe vivant sérieusement sa foi. On peut faire beaucoup de reproches, mais certainement pas le fait de ne pas prendre au sérieux la religion et les devoirs religieux. Donc ça veut dire, Paul était quelqu'un qui, depuis longtemps, toujours, menait une vie entièrement centrée sur Dieu, et dans lequel il n'avait pas de péché à se reprocher. Donc ce n'est pas une conversion morale. Ce n'est pas non plus une conversion religieuse, au sens de « il était musulman, il est devenu chrétien », ou le contraire, au sens de « changer de religion », il s'est converti. Paul n'a pas changé de religion. Parce qu'à l'époque, c'est un anachronisme de parler de judaïsme et christianisme comme de deux religions différentes. Ça va prendre beaucoup de temps, ça. Il réalise que Jésus de Nazareth est bien le Messie de Dieu, annoncé par les prophètes d'Israël, ce qu'il va redire dans ses lettres. Alors, ce n'est pas une conversion, c'est... il est introduit dans le plan de Dieu ici et maintenant. Donc, il nous apprend d'ailleurs cette chose importante, que se convertir, c'est d'abord rencontrer Jésus, laisser Jésus faire irruption dans sa vie et en changer le sens. Bon. Donc Paul, on l'a vu, avait tout, hein, une excellente éducation, une grande famille de marchands, descendants de Benjamin, une foi zélée, une culture de pharisiens. Tout cela, ces richesses humaines, avantages, comme il dit, dont j'étais pourvu, je les ai considérés comme un désavantage à cause de cette connaissance, à cause du Christ. Je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Notez, c'est intéressant. À cause de lui, j'ai accepté. On peut dire, mais ça s'est joué là sur Damas. T'as été choisi, mon Toto, t'avais pas le choix. Ça t'est tombé dessus. Ben si, il avait le choix. Il y a eu 3 jours, il était aveugle, il a été catéchisé, il a accepté le baptême d'Anani. Alors là, je suis un peu catholique en disant ça, mais enfin, il faut quand même dire que la grâce de Dieu, il faut quand même l'accepter. Comme dira l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Alors, ben, si on n'ouvre pas, eh ben, ça ne rentre pas, quoi. Bon, Dieu... Vous voyez, si pour Paul lui-même, le maximum de l'échelle de Richter, de la grâce, si vous voulez, de l'assommage spirituel, même là, il y a de la liberté, il y a de la réponse, il y a de la liberté humaine, il y a l'acte de répondre à ça, j'ai accepté, a fortiori, pour nous et pour tout autre. J'ai accepté, je considère tout comme ordure, afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui. Paul a été touché par l'initiative de Dieu qui a fait de lui le persécuteur, un apôtre. Le Père a daigné révéler en moi son Fils. Alors l'un des grands exégètes catholiques du XXe siècle, Dom Jacques Dupont, un bénédictin belge, une œuvre immense, a écrit un article dans les années 60, assez malin, où il a fait remarquer que l'expression « quand le Père a daigné révéler en moi son Fils sans consulter la chair et le sang », ça nous rappelle Matthieu 16. Simon-Pierre lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, apocalyptein, cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Donc on a, si vous voulez, un noyau de termes communs, révélation, ni chair ni sang, le Père qui révèle le Fils. Donc c'est ce que Paul a vécu. Pour le dire encore, pour changer de religion, Benoît XVI, Paul n'est pas passé de l'absence de foi à la foi, il n'est pas passé des idoles à Dieu, il n'a pas dû abandonner la foi juive pour adhérer au Christ. C'est carré. Donc, non, rien de tout cela. Il a reconnu que dans la vie, la croix et la résurrection de Jésus, par là se réalisait le dessein de Dieu. Voilà. Donc non pas une négation des espérances et de la religion d'Israël, le contraire, l'accomplissement de l'aspiration et de la parole des prophètes. Il a voulu courir jusqu'aux îles lointaines, dont parlent les psaumes, c'est sans doute l'un des motifs de son désir d'Espagne, parce que l'Espagne, c'est la fin du monde. N'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y a pas d'Amérique. Donc, les terres de l'Ouest, les îles lointaines, les portes d'Hercule, Finistère, bon, ben, c'est l'Espagne. Alors, Lucien Legrand, qui a enseigné 40 ans en Inde, dit « Pourquoi il n'est pas allé en Inde ?» Bon, parler en Inde, parce qu'il y a d'autres iront. Moi, je vais à l'ouest. Bon, il y en a qui vont au sud, à l'est, non, je vais à l'ouest. Alors, j'ai l'intention d'aller jusqu'au bout. Voilà. Bon. En lui, les nations mettront leur espérance, Romains 15, 12. Donc, pour lui, il est au service de ce dessein de Dieu annoncé par Isaïe. En lui, les nations mettront leur espérance. Eh bien, ça commence. De même que l'expérience de Dieu des prophètes d'Israël les disposait à proclamer la parole, Paul se voit envoyé en mission. Alors ça, c'est un point que je n'ai pas encore complètement réfléchi, qui n'est pas complètement clair pour moi, mais que je trouve intéressant, c'est que son modèle de vocation n'est pas pensé sur le modèle des 12 dans les évangiles. Alors les 12, c'est simple. Jésus les a croisés et leur a dit « Toi, suis-moi ». Paul, il ne dit pas « Jésus m'a dit » Jésus m'est apparu et m'a dit « Toi, suis-moi ». Non. Celui qui, dès le sein de ma mère, m'avait appelé à daigner révéler en moi son fils, alors, etc. Bon, donc, il pense sa vocation sur le modèle prophétique de l'Ancien Testament, pas sur le modèle néo-testamentaire qu'on va connaître par les évangiles. Je ne sais pas trop quoi faire de ça, mais je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que... Et puis, c'est un peu gonflé, quand même. Jérémie, Isaïe et moi. Et donc... Donc, c'est pas rien comme affirmation. Se penser, de même qu'il se met en série avec les apôtres pour avoir le Seigneur, il se met en série pour l'appel avec les prophètes. À Alors, le Christ remplit la vie de Paul, connaître le Christ, le servir et le cœur de sa vie. Hein, vous connaissez, on peut parler 3 heures de ça. Ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est livré pour moi et m'a aimé, etc. Galates 2:20, bon. Alors, Luc nous a dit, on a entendu tout à l'heure, qu'il y a eu une affaire au temple de Jérusalem. Est-ce que Paul nous en parle? Bon. A priori pas. Mais enfin, il y a un passage un peu étrange qui est 2 Corinthiens 12, 1-4. Alors, c'est dans ces fameux chapitres qui constituent, si vous êtes pédant, vous dites péri-autologia, c'est-à-dire une auto-apologie, confronté à ces fameux super apôtres et à tous ces gens qui disent « mais t'es pas vraiment un apôtre, t'es pas vraiment sérieux, t'es pas ceci, t'es pas cela », et Paul est obligé, dit « je ne dois pas parler de moi, c'est pas bien, faut pas, mais enfin je vais le faire quand même, puisque vous m'y obligez bon. ». Donc, en 2 Corinthiens 10, 11, 12, ça s'appelle « Apologie de Paul hein, » dans la BJ. Réponse à l'accusation, Paul se voit contraint de faire son propre éloge. 2 Corinthiens 11, Corinthiens 12, ça continue. Il faut se glorifier. Ça ne vaut rien. C'est inutile. Bon. Pourtant, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Alors, vision et révélation. On sait que Galates 1, révélation, c'est Damas. Vision, ça serait plus ce que Luc dit en acte 22. Hein, Jésus en extase. Alors, je connais un homme dans le Christ. Alors ça, c'est bien connu, cette manière de parler indirectement de soi à la troisième personne. C'est pas Jules César, hein, il est là. Bon, non, c'est l'expérience de dissociation que vit le mystique entre ce qu'il vit et son vrai moi, pauvre. Bon. Je connais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans, donc on fait tout un calcul pour essayer de caler ça, hein, 57-14, ça vous fait à peu près du 43. Donc, si Paul a vécu Damas en 33, on est 10 ans après le tremblement de terre initial. Était-ce dans son corps? Je ne sais pas. Hors de son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Cet homme-là, donc, fut enlevé jusqu'au troisième ciel. Ce qui pose la question de combien il y en a? 7 ou 3? Est-ce que Paul... Il y a plein de thèses là-dessus récentes, depuis une vingtaine d'années, je ne les ai pas lues, donc c'est un sujet qui m'intéresse un peu, hein, c'est la tradition des voyages célestes. Bon. Donc est-ce que c'est 3 sur 7 ou 3 sur 3? Bon, ben, je ne rentre pas dans le débat ici. Je sais que cet homme fut enlevé jusqu'au paradis. On a plutôt envie de dire, on ne peut pas aller plus haut quand même. Et il a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à l'homme de redire. Bon, ça nous avance bien. Pour un tel homme, je me glorifierai, mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Bon, alors, Daniel Marguerat, qui a écrit un article sur Paul mystique, aime bien commenter ça en disant, voilà, c'est quand même très paradoxal. C'est-à-dire, Paul, régulièrement, il dit, oui, les actes de puissance, j'ai fait les prodiges, mais je ne veux être chez vous que faible et pauvre. Ok, je suis allé au ciel et j'ai entendu des trucs absolument incroyables. Ben, je ne vous le dirai pas, hein, voilà, parce que ce n'est pas important. Parce que ce qui est important, c'est ce que j'ai fait concrètement parmi vous. Voilà. Donc, il a vécu des expériences spirituelles extraordinaires. Alors, Marguerat écrit dans son petit livre « L'aube du christianisme » « Paul priait, Paul a eu des visions, Paul guérissait, Paul parlait en langue, mais jamais il ne confère à ses propres expériences spirituelles une valeur paradigmatique exemplaire de la condition croyante. Au bout du compte, Paul préfère parler de sa faiblesse, de sa faible apparence, du fait qu'il n'a voulu connaître que le crucifié. En d'autres termes, il se méfie d'une théologie de la puissance, d'une théologie de la gloire. Pour parler en termes de Balthazar, la gloire et la croix, Paul préfère parler de la croix plutôt que de la gloire. Son expérience de la gloire du Christ ne peut pas être séparée de la croix. D'ailleurs, il est l'un des seuls dans le Nouveau Testament à parler parfois quasi exclusivement de la croix. Galates 6, 14. « Non, pour moi, jamais d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. » Ça, c'est les œuvres de la loi. Il faudrait faire des choses, se faire circoncire pour être baptisé. Non, mais la nouvelle création, créé par l'Esprit de Dieu au moment du baptême. Et en Galates 3, d'ailleurs, quand il rappelle ce qui s'est passé, aux Galates, bon, je vous ai déjà dit que c'était les Gaulois, hein, on en prend pour notre grade, aux Galates stupides, qui vous a ensorcelé ? À vos yeux, pourtant, ont été dépeints les traits de Jésus-Christ en croix. Il leur rappelle l'annonce de l'évangélisation, on pourrait dire, je vous rappelle que je vous ai annoncé Jésus ressuscité. Non, je vous rappelle que je vous ai annoncé Jésus crucifié. Et je ne veux savoir de vous qu'une seule chose, est-ce pour avoir fait les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou pour avoir cru à la prédication ? Donc là, on voit le lien à Damas. Est-ce que vous avez dû faire quelque chose de spécial, notamment rituel, pour recevoir l'Esprit ? La réponse est non. Vous avez simplement cru. D'où l'importance que Paul donne à l'histoire d'Abraham. Dieu, Abraham mit sa foi dans le Seigneur et Dieu le lui compta comme justice. À ce moment-là, Abraham n'a rien fait. Genèse 15 est avant Genèse 17, c'est avant le sacrifice d'Abraham. Bon, vous savez que la lettre de Jacques va un petit peu répondre, enfin, est en tension avec ça, mais Paul est dans un combat engagé dans sa vie, on va y revenir, avec des maîtres judéo-chrétiens qui veulent imposer aux païens tout un certain nombre d'obligations de faire pour être de bons chrétiens. Alors, avant le baptême ou après, mais enfin, voilà. Pour accéder à la foi parfaite, il faut faire ça, ça ou ça avant. Paul dit non. Évidemment, il n'est pas protestant, Paul. On n'est pas dans les débats du XVIe siècle. C'est pas son problème. Il dit évidemment à la fin de ses lettres qu'il faut des œuvres. D'ailleurs, l'Écriture le dit au début de Romains. Dieu jugera sur les œuvres. Donc il dit nul, débauché, etc., n'entrera dans le royaume. Bon, il appelle ces communautés à des œuvres. Une foi, comme il dit, une expression très frappante en Galates 5, quand il dit, il parle d'une foi, voilà, Galates 5, 6, hein, donc dans le Christ, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision qui compte, ce qui fait écho à ce que je viens de dire en 6, 14, mais seulement la foi, alors je traduis littéralement le grec, énergumène. J'aime bien l'idée de la foi énergumène. Energumene, hein, alors opérant, travaillant par la charité. Donc energumene di agape, non ? Dans energumene, vous avez énergie, vous avez energon, en œuvre. Donc la foi, elle se met en œuvre. Bien d'accord pour Paul. Mais ça, c'est dans la suite. Voilà, c'est dans le fruit, ça vient. Mais il n'y a rien à faire avant. Alors, une chose aussi qui me paraît très intéressante et où Paul peut nous apprendre beaucoup, donc on vient de voir une expérience fondamentale à Damas qui le constitue comme missionnaire, qui est une vocation, qui le constitue comme apôtre des nations. Alors, une fois de plus, on pourrait dire il a reçu mandat, si je suis protestant, je dis, il a reçu mandat directement de Dieu. Il est ordonné directement par Dieu. Il n'a besoin d'aucune sanction ecclésiale, d'aucune sorte. Qu'aucun apôtre ne confirme rien. Oui, sauf que, si on a une lecture de l'ensemble du Nouveau Testament, après tout, l'Esprit-Saint a donné tout à tout le monde, et les actes des apôtres, ça fait partie de la Bible des protestants, non ? Jusqu'à preuve du contraire. Donc, en Actes des Apôtres 13.1, on lit ceci. Donc, je ne suis pas sûr que j'en ai parlé la dernière fois, mais vous allez me corriger si je l'ai fait. Hein. Donc, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, donc ce qui nous rappelle les sept diacres. Bon, donc Barnabé, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, c'est-à-dire Ménachem, ami d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saül. Alors j'avais commenté cette affaire-là pour ami d'enfance d'Hérode le tétrarque. Bon. Donc Barnabé au début, Saül à la fin. Or un jour, tandis qu'il célébrait le culte du Seigneur et jeûnait, l'Esprit Saint dit « Mettez-moi donc à part Barnabé et Saül ». Alors l'Esprit Saint dit, on peut supposer, par le biais d'un des prophètes de la communauté. en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors Paul, il aurait dû lever la main. « Non, non, mais laisse tomber. Moi, c'est bon, je sais, je connais. J'ai l'œuvre, j'ai la mission déjà, j'ai l'ordre de marche. Je n'ai pas besoin d'être dans une assemblée qui est une espèce de tartempion au fond qui dise « Oui, oui, Paul, c'est ça ta mission. » Bon. Ben oui, il y a les deux. Donc, et on va revenir beaucoup là-dessus sur l'affaire des communautés. Pourquoi est-il mort ? Paul a considéré que la communion avec l'Église, avec Képhas, était importante. Alors, il est constitué comme apôtre, et donc il va, dans des régions, annoncer l'Évangile. Il cherche à le faire, comme il dit, sans les artifices du langage humain. Bon, alors ça, c'est quand même un peu un topos, hein. C'est-à-dire que, à l'époque, on se méfie beaucoup de la sophistique, des gens qui savent trop bien parler. Donc, le bon orateur commence par dire « Écoutez, les amis, je vais vous parler simplement, franchement, du fond du cœur. Je ne vais pas faire de grands discours et je ne vais pas chercher à vous accabler par bien des raisons. Mais il faut voter Godin. » Voilà, bon, mettons. Donc, vous voyez, vous dites, mais en fait, après, vous allez argumenter, en réalité. Bon. Donc, Paul veut insister sur le fait qu'il n'est pas séducteur, que ce n'est pas d'abord la magie de son verbe. Parce qu'évidemment, ce serait affaiblir la portée de l'acte de foi qui est posé derrière. Il faut qu'il puisse dire, non, non, vous n'avez pas cru en Dieu simplement parce que je vous ai bien parlé. Il faut qu'il dise, non, non, c'est l'œuvre de Dieu qui en vous a fait que mes pauvres paroles ont été efficaces. Alors là, on touche un paradoxe absolu du prédicateur, ou du théologien. Parce qu'en réalité, Paul mobilise toutes les ressources de sa rhétorique, de sa sagesse, de son intelligence, de sa connaissance des Écritures. Donc, le missionnaire doit mettre en œuvre tout ce qu'il est. Mais sans jamais y croire, si je puis dire, sans jamais s'appuyer là-dessus, en laissant Dieu agir. Bon. Et c'est pour ça que là, il y a, comment dire, une déontologie extraordinaire, hein, l'humilité du véritable apôtre. Mais en même temps, ce n'est pas un hommage aux imbéciles, à dire « je ne vais pas préparer mon homélie ». Donc, le prédicateur prépare son homélie, fait tout ce qu'il peut pour qu'elle soit bonne. Maintenant, il sait que ce n'est pas ça, ce n'est pas les moyens qu'il aura mis en œuvre qui vont faire l'efficacité de l'homélie. Là, il y a une tension pour tout chrétien, d'ailleurs. Pas seulement le prédicateur. Je parle avec mon voisin de train dans le train, ce qui m'est arrivé en allant à Marseille dimanche soir. J'étais très impressionné, d'ailleurs, une jeune femme de 20 ans qui allait rencontrer le père Zanetti Zorkin. Elle m'a expliqué, voilà. Enfin, bon. Et bon, alors voilà, on dit des choses, on n'essaye pas de dire des débilités ou des banalités ou des crétineries. On essaye de dire des choses intelligentes. Mais enfin, c'est pas le plus important. Bon. Alors, il va évangéliser, susciter la foi que Dieu va donner, qui est toujours un échange entre un don de Dieu et une réponse de l'homme. Alors, une des manières les plus efficaces et rapides de dire ça théologiquement, parce que là on touche quand même à cette affaire de la grâce et de la liberté humaine, qui est un genre allégé petit problème théologique depuis 2000 ans, en Galates 4, 11, Galates 4.9, Paul donc est en train de faire la morale assez sérieusement aux Galates. Il vient de les traiter d'imbéciles, hein, de stupides, d'anoétoïdes, d'insensés. Bon, ils sont en train de se détourner de lui, mais c'est ça, il s'en fout, Paul. Il dit, mais attendez, vous êtes en train d'abandonner le Christ, en croyant que l'évangile que je vous ai annoncé, c'était un évangile 1.0. Non, non, pas du tout. Bon. Jadis, dans votre ignorance de Dieu, vous étiez esclaves de Dieu, qui, par nature, d'ailleurs, n'en sont pas. Bon, ça c'est tout le problème des idoles, ça n'existe pas. Mais si on en est esclave, on les fait exister quelque part. Bon. Donc vous étiez esclaves de Dieu qui, d'ailleurs, fussent par nature, n'en sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, actif, donc, que vous avez mis votre foi en Dieu, que vous avez décidé de croire en Dieu, que vous avez choisi de croire en Dieu, ou plutôt correctio, figure rhétorique, gréco-latine de la correction, qui est volontaire. Vous faites exprès d'écrire ce que vous écrivez. Mais vous vous corrigez tout de suite pour nuancer l'affirmation. Donc, maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu par lui, c'est-à-dire dans la foi que vous reconnaissez que c'est Dieu qui a pris l'initiative de se faire connaître à vous. En d'autres termes, que la foi, le croyant dit toujours dans la foi que sa foi est une réponse à une initiative première de Dieu. Et si Dieu veut nous dire « Non, 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 c'est bien, tu as décidé, tu as choisi », c'est son job à lui. Langage de Jésus, « Ta foi t'a sauvé ». Ah mais non, moi j'ai rien fait, c'est toi qui m'as... Quand même, Seigneur, pas exagérer, c'est quand même toi qui m'as sauvé, pourrait dire la femme, moi j'ai rien fait. Si, 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 dit Jésus, ta foi t'a sauvé. Bon, mais ça c'est le job de Dieu, de dire, c'est bien ta réponse. Le croyant, lui, il dit, Seigneur, c'est toi qui as agi, c'est toi qui m'as donné, c'est toi qui m'as sauvé, c'est ceci. Bon, et c'est la logique de l'amour. Après tout, voilà, dans un couple qui marche, c'est ça qui se passe. C'est toi qui m'as permis de croire en toi, c'est toi qui m'as permis de t'aimer, c'est toi qui m'as permis de... Jamais dans l'autre sens, sinon ça ne va pas. Bon. Expérience de Damas, confirmation par une extase dans le temple, bon, croyons Luc, en tout cas par des expériences mystiques. Mais en même temps, alors ça c'est aussi un truc moi qui me scie chez Paul, c'est que cet homme qui a quand même vécu des affaires... Enfin, soyons honnêtes, pas banal. Il dit qu'il n'est pas arrivé. Il dit qu'il est tendu vers le Christ qui va venir. Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait. Mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. Je tâche de saisir, actif, ayant été saisi, passif, par Jésus. Non, mes frères, je ne me flatte pas d'avoir déjà saisi. Je dis seulement ceci, oubliant le chemin parcouru, alors là, moi, je m'arrête, oubliant le chemin parcouru, Paul, qui est un homme de la mémoire, qui dit « Chaque jour, je fais mémoire de vos visages dans mes prières et je me souviens comment vous m'avez accueilli. » Paul, c'est un homme de la mémoire, de la gratitude. Il se souvient de tout. Et il dit « Oubliant le chemin parcouru. » Vous voyez la force de cette affirmation. « Je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être. Je cours vers le but en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ. » Bref, quel que soit le point de départ, le point déjà atteint, marchons toujours dans la même direction, Philippiens 3, 12, 16. Ça, je trouve que vous avez une loi de la vie spirituelle extraordinaire. C'est-à-dire comment, quels que soient les dons reçus, être toujours dans l'attente de l'avenir. Paul était un homme en perpétuel chemin. Il ne pensait pas être saint, il ne pensait pas être parfait. Notez qu'ailleurs, il dit, bon, nous les parfaits, il y a les faibles, nous les parfaits, bon, nous les forts, mais en même temps, vous voyez, ça c'est les tensions rhétoriques chez Paul, c'est à ce moment-là, il dit, bon, nous les parfaits, c'est-à-dire nous qui savons que manger du porc, eh ben, c'est pas dramatique, quoi, voilà. Hein. Dieu s'en fout un peu fondamentalement à l'heure d'aujourd'hui, voilà, c'est ça qu'il dit. Bon, alors les faibles et les forts. Par ailleurs, malgré ses expériences mystiques et son statut d'apôtre, défendu, assumé, qu'il croit profondément, il est dans un chemin de prière. Alors vous savez qu'aujourd'hui, dans la spiritualité chrétienne occidentale, on est très réticent envers la cèse, parce qu'on a tellement mis de silice, on s'est tellement fouetté le sang, que je me souviens de mon supérieur espagnol au Cameroun, qui m'a dit qu'en arrivant au monastère, au noviciat de la province de Catalogne en 1952, il entendait le bruit des fouets des 80 novices qui souhaitaient. On est arrivé, bon, on serre les dents, très bien. Bon. Donc ça, c'était l'ambiance à l'époque. Mais Paul, quand même, il dit qu'il multiplie les jeûnes, les prières nocturnes, je traite durement mon corps. Ça, c'est actif, parce que par ailleurs, on le traite durement. Tous les athlètes s'imposent une ascèse rigoureuse. Eux, c'est pour une couronne périssable. Nous, pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours ainsi. Je ne vais pas à l'aveuglette. Je boxe ainsi. Je ne frappe pas dans le vide. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. On a envie de dire, attends, Jésus, il a misé sur le bon cheval. Il a choisi le bon apôtre. Il ne va pas tout d'un coup dire, bon, Paul, ok, c'est bon, on laisse tomber. Et Paul, il ne se croit pas arrivé. Et ça, c'est magnifique, hein. Que je ne sois moi-même éliminé de la course. Alors, par ailleurs, quand j'ai parlé du corps, hein, au Galates, il dit à la fin, hein, bon, de toute façon, bon, que personne ne me suscite d'ennui, je porte dans mon corps ta stigmata, tu Jésus. Les stigmates de Jésus. Alors, c'est pas Padre Pio, c'est pas François d'Assise. Ça veut dire quoi? Il l'a dit lui-même aux Galates quand il est arrivé, d'ailleurs, Galates 3, Galates 4, « Quand je suis arrivé chez vous, vous le savez, ce fut une maladie qui me donna l'occasion de vous annoncer l'Évangile. Et malgré l'épreuve que vous étiez ce corps infirme, vous n'avez marqué ni mépris ni dégoût. » Il devait être dans un sale état. « Mais vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme le Christ. Je vous rends ce témoignage. S'il vous avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Grand opposé de l'amitié antique. Voilà. Donc, vous, mes petits-enfants, que j'enfante à nouveau dans la douleur, donc vous m'avez accueilli comme un enfant malade. Maintenant, c'est moi qui vous enfante à nouveau. Comme il ne veut pas recourir à l'autorité, on va y venir, il parle de lui comme d'une mère. Bon. Donc, il avait reçu, donc une fois de plus, 5 fois les 39 coups de fouet. Bon, si certains d'entre vous ont vu 12 ans esclave, 12 years a slave, un des bons films en ce moment qu'on peut voir au cinéma, moi, parfois, on détourne un peu l'écran. Quoi. Vous voyez le sang qui gicle du dos des esclaves fouettés. Vous imaginez Paul, quoi. Les 39 coups de fouet, on rigole pas. Hein. D'ailleurs, c'est une des scènes les plus terribles avec Epps, ce maître d'esclaves qu'on connaît bien, de Louisiane, hein, qui accueille les nouveaux esclaves qu'il a achetés. Il prend sa Bible, il dit voilà. Le bon serviteur, le mauvais serviteur recevra un grand nombre de coups, dit le Seigneur. Un grand nombre de coups. J'ai bien dit un grand nombre de coups. 40, 50, 100. This is scripture. Ah, c'est prodigieux cette scène. C'est l'écriture, voilà, c'est ça la Bible. Donc. Jeté en prison, avec à un moment donné ce qu'il écrira dans la province d'Asie, j'ai cru, j'ai vu ma dernière heure venue, quoi. J'ai cru que j'allais mourir. Voilà, hein. 2 Corinthiens 1, 8. Je ne veux pas que vous l'ignoriez, frère. L'épreuve qui nous est survenue en Asie nous a accablés à l'excès, au-delà de nos forces, à tel point que j'ai désespéré même de conserver la vie. Vraiment, j'ai porté mon arrêt de mort afin d'apprendre à ne pas mettre ma confiance en moi, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Et Paul, il en avait vu, hein, pour qu'il soit au bord du désespoir. Ils disent vraiment, entre parenthèses, c'est intéressant de lire des bouquins sur les prisons romaines. Parce que nous, maintenant, on a des prisons 3 étoiles. Alors, enfin, 3 étoiles, c'est que c'est terrible l'état des prisons en France. Enfin, vous êtes nourris. On vous amène un bol de soupe et un burger chaque jour. Les prisons romaines, si vous êtes le prisonnier de base, on vous donne rien. On donne rien. C'est-à-dire qu'il faut que vos amis se démerdent, payent un garde qui vous amène un bout de pain. Alors, il y a différents types. Il y a la prison... Paul à Rome, la résidence surveillée, bon, très bien. Et puis vous avez vraiment les trous. Vous êtes avec les rats, vous êtes dans l'eau, dans l'humidité. Vous passez 2 mois là, je peux vous dire, vous n'êtes vraiment pas frais. Donc Paul, là, il a été vraiment au bord de craquer. Et on pense que c'est là que Priscille et Aquila, le couple de missionnaires baroudeurs tout-terrain du 1er siècle, sont intervenus, on suppose, hein. Romains 16, 3. Saluez Priscille et Aquila, mes collaborateurs dans le Christ Jésus. Pour me sauver la vie, ils ont risqué leur tête. Prenez ça extrêmement sérieusement. C'est-à-dire, ils ont effectivement risqué leur tête. Et je ne suis pas seul à leur devoir de la gratitude. C'est le cas de toutes les églises des nations. Saluez l'église qui se réunit chez eux. Paul, là, il dit merci. Alors, comme je dis souvent, qu'est-ce qu'ils ont fait, Priscille et Aquila? Ils ont acheté un bulldozer, ils ont défoncé le mur de la prison. Ils ont fait un truc vraiment grave, quoi, pour se tirer Paul de cette situation. Mais, voilà. Paul était un persécuteur. Il ne faisait pas partie de ceux qui ont suivi Jésus et qui ont cru, après sa mort, à sa résurrection. Au contraire, il pensait... Voilà, que Jésus avait trompé Israël, comme dit le Talmud, était un trompeur d'Israël. Pourtant, par une grâce incroyable de Dieu, grâce qui le laisse, des années après encore, dans la stupéfaction, c'est lui, sans qu'il ait rien fait, que Dieu a choisi, que le Père a choisi, pour lui faire connaître la gloire unique qui resplendit sur le visage du Christ, je suis la théorie de Kim, 2 Corinthiens 4-6, Christ qui est le véritable modèle, le nouvel Adam, le véritable modèle de l'humanité. et qui a été constitué comme apôtre, envoyé de ce même Christ. Lui, le pharisien, formé, a compris que le dessein de Dieu entrait dans une époque nouvelle. Cet appel, j'ai beaucoup insisté ce soir là-dessus, a aussi été une réponse de foi de sa part. Paul s'est engagé, après cet appel, de tout son être, dans la réponse, et dans l'Église formée par cette réponse. Et après tout, Luc nous transmet peut-être un élément valide de son itinéraire en Actes 13, 1 à 5, même si Paul ne nous parle jamais d'Ananie. C'est sûr que moi, ça m'aurait fait plaisir qu'à la fin d'une lettre, Paul dise, et je pense à Ananie, qui fut si important pour moi de sa part. Ananie, aux oubliettes, non, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé. Alors Ananie, je ne suis pas trop sûr. Par contre, là où je suis certain, c'est des églises. Et notamment l'église de Damas, l'église de Jérusalem, puisqu'il y est allé avec Barnabé dans Galates, ça il le dit, l'église d'Antioche, bon, il y a des églises qui ont accueilli Paul, qui lui ont transmis des choses, et on va voir que Paul ne les a pas oubliées, y compris l'église de Jérusalem. Le Christ n'est pas une figure, ou n'est plus une figure inconnue, c'est un homme précis. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous montrer l'originalité un peu incroyable de l'apostolat de Paul. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'il est apôtre? Voilà. Comme dit Ratzinger dans le bouquin, eh ben, normalement, Paul n'aurait jamais dû être un apôtre, il n'a pas les conditions pour être un apôtre, il ne rentre pas dans le schéma, eh ben, Dieu a fait une exception à son plan pour lui. Naturellement, c'était prévu de toute éternité. Mais, voilà. C'est assez intéressant parce que ça montre que il y a une espèce de... Ça boucle pas, quoi, le système de... La doctrine des apôtres dans le Nouveau Testament, elle n'est pas complètement homogène. Vous avez à la fois des textes qui disent non, les apôtres, il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 45, il y en a 12. Et puis, pour Paul, il y en a plusieurs, quoi. Il y a notamment Apollos, quelqu'un de très bien, Apollos. Voilà, Apollos, c'est quelqu'un qui est apôtre comme Paul. Voilà, à la fin de Corinthiens, il dit, bon, j'ai dit à Apollos de passer chez vous, il ne veut pas, bon, ben, il fera bien ce qu'il veut, hein. Moi, je n'ai pas d'ordre à lui donner, hein. J'ai juste dit que ça serait bien qu'il passe pour calmer un peu le jeu. Moi, j'ai écrit, je suis passé, bon. Mais qui suis-je pour juger Apollos? Apollos a son propre mandat d'apôtre. Et Luc, en 95, sans doute qu'Apollos est mort depuis un certain temps, Luc nous dit, acte 18, Apollos, homme versé dans les Écritures, éloquent, etc., juif d'Alexandrie. Bon, Apollos est sans doute quelqu'un qui a fait un très 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 bon boulot comme apôtre. Bon, d'une autre manière que Paul. Donc, si on est au plan historique, il faut sans doute tenir que dans la première communauté chrétienne, entre 33 et 80, eh ben, il y avait beaucoup d'apôtres. Et simplement, on reconnaissait quand même qu'il y avait les 12. Bien sûr, les 12 étaient apôtres, mais il n'y avait pas qu'eux. Voilà. Il y avait un peu différents cercles. Juste quelques minutes pour l'une ou l'autre question, chose pas claire. Non, c'est bon. Oui. Oui. Mais si. Eh. Non, mais aujourd'hui, ça le serait, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a le judaïsme d'un côté, il y a le christianisme de l'autre qui ont leur histoire. Mais à l'époque, si vous voulez, c'est un anachronisme. Tous les premiers apôtres, tous les premiers chrétiens, ils se considèrent totalement comme juifs. C'est évident. Il le dit lui-même, d'ailleurs. Quand il parle de lui comme israélite, il ne met pas au passé. Je suis descendant, tribu de Benjamin, etc. Alors, on verra ça dans comment Paul s'est situé face au mystère d'Israël. On reviendra sur cette question. À mercredi.